Notre invité, Jean Lemaître, est là, mais on va lui laisser le temps de reprendre son souffle. Et Jean nous avait envoyé toute une bande-son pour accompagner sa présentation et notre petite discussion aujourd'hui. Et donc, on va écouter quelques morceaux en lien avec le contenu de son livre. Et on continue, on commence avec... on va lui laisser en parler après la chanson. Et voilà, on écoute ceci.
No céu cinzento, sob o astro morro, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique. Il est 8h passées de 1 minute 39 secondes. Ce sont les promesses de l'aube. On est en votre compagnie jusqu'à 9h. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce studio à la maison Jean Lemaître. Bienvenue Jean.
Bonjour Zoé, un plaisir partagé.
Voilà, tu es un habitué de notre émission. Hein. On aime bien t'inviter quand tu sors tes livres et si j'aime t'inviter, c'est parce que tu es un fin connaisseur du Portugal, un grand amoureux du Portugal et tu es un véritable historien populaire à la manière d'un Howard Zinn. Tu aimes aller déceler les figures mineures, on va dire, enfin mineures telles qu'elles sont considérées par l'histoire habituellement enseignée. Et donc tu as l'art d'aller chercher derrière la grande histoire toutes ces petites histoires qui font les peuples et que font les peuples.
Des petites histoires que souvent on cache, hein, parce que ceux qui font l'histoire sont souvent les puissants.
Voilà.
Et ceux qui sont oppressés.
Et donc tu es le lapin qui raconte l'histoire à la place du chasseur.
Tout à fait. Voilà. Proverbe africain.
Et donc on se rappelle que tu avais commencé, enfin commencé si je puis me permettre, avec Grandola Villa Morena, l'histoire d'une chanson qui racontait un peu comment la chanson Grandola Villa Morena avait lancé la révolution des œillets en 1974. Et c'est 74, hein, je me trompe.
74.
Hein. et donc c'était un très beau livre aussi. Après tu étais parti à la recherche d'un Christophe Colomb
portugais
dans l'Alentejo. Et là, maintenant, tu nous emmènes de nouveau dans l'Alentejo avec ce dernier livre, La Commune des Lumières, Portugal 1918, une utopie libertaire, paru aux éditions Otium. Et donc, le titre nous emmène déjà dans l'époque, donc début du 20e siècle au Portugal, enfin fin 19e, début 20e, dans cette région, l'Alentejo, majoritairement agricole, mais avec des grands propriétaires terriens qui exploitent les petits paysans, et donc aussi... cette diffusion un peu partout en Europe et qui arrive très lentement au Portugal de cette vision anarchiste, et notamment tu évoques l'importance d'Élisée Reclus dans le géographe français. Et donc voilà, j'ai posé un peu le cadre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur ce moment-là, sur cette période-là, et sur le personnage dont tu vas nous parler qui a joué un rôle fondamental?
Mais je pense, tu disais, Zoé, que je suis un historien autodidacte. Oui, c'est vrai. Mon métier, c'est plutôt journaliste, donc l'enquête journalistique. J'ai une passion pour l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire pour figer l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de retirer des leçons, des enseignements qui nous permettent de mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Et si on la comprend mieux, ces mécanismes, c'est de changer la société dans le sens qu'on veut, où on veut la changer. Et donc voilà, cette histoire de commune libertaire, anarchiste pacifiste, dans le fin fond de l'Alentejo, m'a beaucoup séduit. Parce que j'ai trouvé qu'elle recelait, il y a plus d'un siècle, beaucoup d'ingrédients extrêmement intéressants pour peut-être repenser dans tous les sens du terme et reconstruire une société aujourd'hui, un siècle plus tard, qui pour moi se délite totalement.
Et justement, ce que tu dis, ça se sent bien dans le livre, c'est comprendre le passé pour construire le présent et pour pouvoir le comprendre aussi et y faire face. Et donc, on voit bien le parallèle. Tu dis 1918, là, on est en 2020, ça fait plus ou moins exactement un siècle, en effet. Et quand on lit ton livre, on a l'impression d'être maintenant aussi. Enfin, justement, avec cette actualité des gros exploitants agricoles qui exploitent les petits paysans ou bien qui empêchent les petits paysans de développer leur production pour l'alimentation des populations qui produisent. Et donc, c'est totalement raccord avec ce qui se passe.
Je pense qu'on est dans l'actualité, effectivement, parce que après des dizaines d'années de lutte quand même d'amélioration de la société, de construction de la sécurité sociale, de mécanismes participatifs, on fait un grand bond en arrière pour le moment, en quelques années, à une vitesse V2', où c'est non plus les uns avec les autres, mais les uns contre les autres, oppression au boulot, précarité de l'emploi, peur écologique aussi, c'est important. Tu soulignais Élisée Reclus, j'ouvre une petite parenthèse, mais Élisée Reclus, peu le savent, qui avait participé à la Commune de Paris, titre de gloire, a été en fait était un géographe français, mais ça a été le premier écologiste, et cette empreinte écologiste était présente dans la Commune des Lumières. Et donc ce que je trouve assez remarquable dans cette expérience, c'est qu'elle est très locale, très concrète. La commune a été créée dans un petit village rural au fin fond de l'Alentejo, et en même temps, l'animateur de la commune, Antonio Gonçalves, qui était lui-même un autodidacte, un voyageur de commerce, avait une culture étonnante, internationale. il connaissait de nom Louise Michel, Rosa Luxemburg. Il était en relation avec Francisco Ferrer avant l'exécution de Francisco Ferrer en Catalogne, en Espagne. Il construisait une commune pour montrer qu'il est possible de donner une alternative au capitalisme qui était extrêmement opprimant. À l'époque, il y a un siècle, dans cette région très rurale, peu peuplée du Portugal, du sud du Portugal, on vivait pratiquement encore comme au Moyen-Âge. Et il voulait montrer qu'il était possible de construire des alternatives. Et le simple fait de montrer que ça marche, eh bien, c'est proprement révolutionnaire.
Et justement, il y a plein de choses. Enfin, c'est tellement riche ce livre avec plein d'informations qui sont à la fois sociales, politiques, économiques. Et donc, cette figure d'Élisée Reclus, enfin, c'est pas une figure, c'est un grand monsieur, on va
très
dire
grand
que,
monsieur,
comme tu le soulignais, il a eu une grande influence justement sur le mouvement anarchiste et libertaire au Portugal, justement. Il était venu, je pense, en 1886 ou 88. Et c'est vraiment à partir de sa venue au Portugal que le mouvement s'est vraiment créé et que sa pensée a pu être diffusée. Donc, tu parlais aussi du fait que Gonçalves était au courant, il connaissait, il avait... Et donc cette diffusion justement des livres, ces traductions des anarchistes aussi, qu'ils soient italiens, qu'ils soient russes, Gonçalves, je pense, avait beaucoup lu aussi les Russes, quoi. Enfin, il y avait cette diffusion aussi au Portugal qui arrivait justement par la mer, en fait. Elle ne traversait pas le continent, mais c'était les marins russes qui abordaient.
Et puis, comme tu le dis très justement, Zoé, Portugal, portugais, c'est le bout du monde, hein, de l'Europe. Les livres qui venaient de France ou d'Angleterre ou de Russie étaient souvent traduits plutôt en français. Donc, il fallait les retraduire vers le portugais, ce qui n'était pas évident, d'où un certain décalage dans la transmission de l'information. Mais ce que je trouve remarquable, c'est pour les anarchistes, alors je parle des anarchistes parce que, en fait, à cette époque-là, il y a un siècle, un peu comme en Espagne, les anarchistes étaient la principale force d'opposition. Ils étaient moins influencés au Portugal par les courants marxistes que par les anarchistes. Et ce qui est amusant, bon, il ne faut pas non plus tout simplifier, mais le marxisme, le capital de Karl Marx, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Et les anarchistes, notamment russes ou italiens, comme Malatesta, Bakounine, Kropotkine, avaient l'art d'écrire des choses très concrètes. On est vraiment dans l'actualité, c'est un problème de communication. Comment toucher les gens avec des idées? Il faut, comme tu le disais tout à l'heure, parfois mélanger la petite histoire à la grande histoire et partir des préoccupations des gens. Et je pense que ça a été un grand apport en Espagne, mais ici je m'intéresse plus au Portugal, des anarchistes pacifistes de l'époque qui étaient puissants, qu'on a un peu oubliés, c'est de travailler sur l'éducation populaire, sur, comme tu l'as très bien dit aussi, sur la diffusion de livres, les bibliothèques, les centres de formation le soir pour les travailleurs qui parfois savaient à peine lire et écrire, la lutte contre l'analphabétisme, les écoles alternatives aussi, parce que, pensaient-ils, les anarchistes, et franchement, je trouve qu'ils ont raison, ils avaient raison, on ne peut pas changer durablement la société si on ne change pas les mentalités, si on ne change pas le cours des choses avec des hommes et des femmes libres de penser, et pas seulement des suivistes qui se mettent au garde-à-vous face à des gourous. Donc il faut, c'est un mouvement où les choses vont ensemble. Pour changer la société, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent, mais pour s'engager durablement et sans que la révolution se retourne contre ses enfants, il faut des hommes et des femmes libres de penser et de penser critique. Et c'est, je trouve, un message qui aujourd'hui revêt une actualité, mais absolument criante.
Oui.
À l'heure des réseaux sociaux, de la manipulation, des Facebook, de l'image prédominante, d'un discours dominant où on nomme mal les choses pour en fait endormir les gens et les empêcher de penser, de se révolter et de construire autre chose.
Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire, justement le parallèle qui est à faire avec l'importance que peut avoir cette pensée anarchiste plus proche des gens, et donc avec aussi le fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de collectifs, et notamment les collectifs qui sont liés à l'écologie et l'écologie sociale, bien, il y a cet intérêt renouvelé pour un auteur comme un penseur comme Murray Bookchin, qui lui aussi s'inspire des anarchistes. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire ben, ce qui existe maintenant et ce qu'on met en place maintenant, ça a une histoire. Et il faut qu'on se rende compte que, ben, en 1918, au plein milieu de la Lentejo, il y avait des gens qui mettaient ça en place, qui étaient anarchistes, qui mettaient le commun au centre, l'éducation, comme tu l'as dit, mais aussi l'écologie, le végétarisme, le refus de l'alcool aussi, qui était un peu compliqué à mettre en place.
On a Lentejo, parce qu'on aime bien le petit vin blanc bien frais.
Et du coup, ça, c'est ce que j'aime bien en lisant tes livres. C'est effectivement, ça a une répercussion toujours avec notre actualité. Et donc, pour revenir à la diffusion des idées et au fait d'avoir un esprit critique, il y a toute une partie du travail qui a été fait par Gonsalves, qui était justement la diffusion des idées via des journaux qui essayaient de diffuser le plus largement possible, et notamment un qui s'appelle La question sociale. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus
le bien nommé journal La question sociale? Ça me fait penser, je fais un petit détour, à la Catalogne. J'ai lu un livre génial de Lucille Lac, qui vit toujours sur le vécu de la guerre d'Espagne républicaine. Et dans les années 30, dans le petit Barcelone populaire, il y avait une librairie anarchiste qui s'appelait Le crépuscule du capitalisme. C'était une époque où on pouvait encore nommer les choses. Et donc, j'ai oublié la question.
Non, la question, c'était de nous raconter un peu cette histoire de la question sociale, justement, oui. de justement cette question de la presse. Et aussi, ça a occupé une grande place dans l'histoire. Et c'est toujours la presse libre qu'on attaque en premier quand
oui,
des
alors
dictatures...
Un tout petit repère historique. En 1919, la monarchie a été abolie suite à une insurrection militaire au Portugal. Dans un premier temps, c'était un progrès, c'est-à-dire que le nouveau pouvoir républicain a restauré les libertés fondamentales, a aboli la censure préalable. En revanche, l'exploitation sociale et économique continuait, même de plus belle. Et donc, ça a permis de créer des journaux tous azimuts. Et Antonio Gonsalves, dans la Lentejo, se dit, je vais créer mon journal avec quelques camarades, quelques compagnons. Ce que j'ai trouvé remarquable dans son journal, bon, difficile de diffuser un journal dans la Lentejo, parce que 90% des gens étaient complètement analphabètes. Et alors, il avait créé un réseau de correspondants dans tous les villages, dans tous les petits villages, avec des personnes qui décrivaient les événements du village et qui transmettaient par courrier les nouvelles à la rédaction du journal. Et donc, j'ai trouvé cette idée terriblement belle, c'est-à-dire de faire en sorte que les lecteurs deviennent des acteurs d'un journal. C'est toujours l'histoire du lapin qui raconte l'histoire à la place du chasseur. Donc c'est ce souci aussi de la participation citoyenne, aujourd'hui on appelle ça différemment, de la démocratie vivante. Et il va y avoir 20 numéros, je pense, de la question sociale. Alors il faut dire aussi que Antonio Gonsalves, son métier, c'était, je pense que je l'ai dit, voyageur de commerce. Donc il allait dans tous les villages avec des catalogues pour proposer aux petits magasins, aux épiceries, des produits, etc. Du coup, il était connu comme le loup blanc dans la Lentejo. La Lentejo, il faut quand même dire pour les auditeurs de Radio Panique que c'est une région vaste comme la Belgique, Mais avec 600, 700 000 habitants, donc très peu peuplés, les distances sont fort élevées. Et à l'époque, il y a un siècle, il n'y avait pas de voitures. Enfin, seuls les tout grands bourgeois avaient des voitures. Antonio Gonzalez roulait toujours à vélo ou prenait le train parce que le train était en essor, ou il mettait son vélo dans le train, quoi, comme on met à Bruxelles aujourd'hui, sa trottinette dans le tram ou dans le métro. Mais en allant dans les villages, il écoutait, c'était un homme qui écoutait, c'était pas un propagandiste comme ça, froid au teint, au contraire, il avait beaucoup de bonté, beaucoup de sens de la fraternité, et il a appris à mieux connaître les souffrances aussi des gens. Le problème, effectivement, tu le disais, de l'alcoolisme, un peu lié à la misère, mais qui crée des maladies, qui crée des souffrances dans les familles, la difficulté de l'accès aux soins. Le fait aussi que peu de gens allaient à l'école, il y avait uniquement 3 années d'école primaire obligatoire, et encore bon nombre de fils de paysans ou de filles de paysans n'allaient pas du tout à l'école, et donc l'importance de l'école, et quand il y avait des écoles, elles étaient terriblement autoritaires, et donc il fallait changer aussi la pédagogie dans les écoles. On a vu à la RTBF, il y a 2 jours, un magnifique film, « Les écoles du changement », à pédagogie alternative, interactive, émancipatrice, à Saint-Gilles et à Molenbeek, eh bien, Antonio Gonzalez, en 1916, 17, 18, il l'a fait sur le territoire de sa commune. Il a installé une école qu'il a baptisée Francisco Ferrer, sur le modèle des écoles nouvelles de Francisco Ferrer, gratuite pour les fils et les filles de paysans, de cordonniers, à pédagogie active, avec une institutrice qui avait quitté son emploi traditionnel pour rejoindre la commune et qui avait pris à cœur de développer un projet. C'était une baraque, hein, avec un toit en latte de bois, avec quelques chaises, une table, un vieux tableau, et voilà, ça partait. Et puisque tu parlais d'alcoolisme, il était titillé, Antonio Gonzalez, par des gens du coin qui disent « Oui, mais toi, t'es un utopiste, tu vas quand même pas amener les paysans à abandonner le vin rouge ou le vin blanc. » Il dit « Oui, ok, vous avez peut-être raison, tout de suite, mais grâce à l'école, dans une génération, les gens auront changé de mentalité, donc on pourra arrêter de fumer, arrêter de boire, etc. » Donc il y avait une forme qui m'a beaucoup plu chez Antonio Gonzalez, en même temps de radicalité, de détermination dans ses points de vue, et en même temps un côté très pacifique, très dialoguant, souple et pragmatique. Et ce mélange d'utopie et de pragmatisme, eh bien, je trouve que c'est aussi un mélange détonnant dont on a beaucoup besoin aujourd'hui.
Je propose qu'on fasse une pause musicale. Est-ce que parmi tout ce que tu m'as envoyé, là, on a écouté tout à l'heure Zeca Afonso. Est-ce que tu peux nous en dire plus juste de cette chanson?
C'était Zeca Afonso, tu l'as dit, Zoé, d'entrée de jeu. Donc il est mort, malheureusement. Il était né en 1929. C'était le chanteur engagé portugais, dont la belle chanson Grandola Vila Morena, Grandola c'est une ville de l'Alentejo qui était un bastion antifasciste, a été le déclencheur sur les ondes de la révolution démocratique du 25 avril 1974. Et alors cette chanson, Os Vampiros, ce sont les vampires, Eles comem tudo e não deixam nada, ils mangent tout et ne laissent rien à manger pour les autres. C'est une chanson qu'il avait composée au début des années 60 pour dénoncer la grande oppression capitaliste et déjà des multinationales qui venaient s'installer au Portugal pour bénéficier d'une main-d'œuvre qui était payée au lance-pierre. Et cette chanson était très concrète. Ce sont des vampires, ils mangent tout, ils ne laissent rien. Et c'est cet art aussi de la poésie, de la littérature, de la chanson. Le Portugal, et surtout l'Alentejo, était une terre de poètes populaires, souvent autodidactes, de pouvoir dire les choses, mais de façon concrète, vivante, avec des mots très simples et qui touchent les gens. Et donc voilà, cette chanson, les anarchistes, et puis après aussi les socialistes, mais qui étaient minoritaires à l'époque, puis les courants communistes qui sont nés après, luttaient contre l'exploitation capitaliste. Mais avec un petit plus du côté anarchiste, c'est-à-dire aussi l'accent mis sur le changement des mentalités et l'éducation populaire.
Je propose d'écouter une autre chanson. Tu nous raconteras après ce que c'est. Et ça nous vient d'Italie.
nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, è nostra patria il mondo intero. Nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle ancora ci sta.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique, c'est toujours les promesses de l'aube et on est toujours en compagnie de Jean Lemaître et on parle de la Commune des Lumières, mais pas que, on est au Portugal au début du 20e siècle, aux alentours de 1916, 18, 20 et la guerre fait rage du coup hein, et ça a un impact forcément sur la situation au Portugal, qui est un peu excentré et donc qui est un peu épargné, on va dire. Il n'est pas dans le feu de l'action, mais quand même, ça a des répercussions. Et donc, tu as évoqué tout à l'heure le fait que la monarchie avait été abolie, que c'était donc une république qui avait donné un peu un souffle, un peu d'air aussi. À la population et notamment aux personnes engagées, aux agriculteurs, mais ça ne sera que de courte durée en fait.
De très courte durée parce que assez rapidement, malheureusement, le mouvement républicain était quand même un mouvement de bourgeoisie éclairée, on va dire plus éclairée sur le plan philosophique, mais sur le plan social, ils ont défendu leurs intérêts de classe. Et déjà en 1911, 12, 13, 14, etc., la situation sociale s'est fortement tendue. Il n'y avait pas à proprement parler des prisonniers politiques, des détenus politiques, mais beaucoup de détenus sociaux. C'est-à-dire il y avait une chasse aux militants syndicaux, aux travailleurs qui se mettaient en lutte, qui faisaient la grève, qui essayaient de construire des réseaux de solidarité, d'organisation collective. Et alors, effectivement, la guerre 14-18 éclate. Elle a une double répercussion au Portugal. D'abord, l'augmentation des prix, et des prix des denrées essentielles, comme le pain, l'huile, la viande, etc. Et dans les villages de l'Alentejo, très, 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 très pauvres, ce sont des salariés, là, qui sont saisonniers, donc qui déjà gagnent difficilement leur vie. Mais ils n'ont même plus, dans les villages, de quoi s'acheter de la farine pour faire un pain, alors que même cultivent le blé et le coupent à la main, courbé, 12 heures sous le soleil brûlant, parce que les étés sont très, très chauds. Et ils n'ont même pas de quoi se payer à manger, et il règne la faim et aussi des décès prématurés d'enfants parce qu'ils ont faim, ils attrapent des maladies. Et donc ça génère une tension insupportable. Et donc à partir de 1914, 15, 16, l'agitation sociale gagne les campagnes. Alors que jusqu'à ce moment-là, c'était plutôt dans les villes que les travailleurs étaient organisés. Alors deuxièmement, quand même, à partir de 1917, le gouvernement républicain, qui a d'ailleurs trahi ses promesses de rester un peu à l'écart du conflit, a envoyé sur pression de l'Angleterre, qui exerçait une tutelle quasi coloniale sur le Portugal, a accepté d'envoyer des dizaines de milliers de jeunes portugais dans les tranchées, dans les combats horribles dans le nord de la France. Et ils se sont fait couper en petits morceaux par les baïonnettes allemandes. Et alors, caractéristique quand même au Portugal par rapport à d'autres pays, c'est que la majorité des travailleurs et la majorité de son courant le plus puissant, c'est-à-dire le courant anarchiste, est resté résolument pacifiste, à l'image de Rosa Luxemburg ou de Jean Jaurès, qui a été assassiné et qui estimait que cette guerre était une guerre entre impérialistes et que les prolétaires, les travailleurs avaient tout à perdre dans un conflit fratricide entre les peuples. Et au contraire d'autres pays, l'immense majorité du peuple était profondément pacifiste. Ce qui nous ramène à la chanson qu'on vient d'écouter, italienne. J'ai peut-être pas compris toutes les paroles, mais elle dit clairement « La patrie, c'est notre monde, et notre idéal, c'est la liberté. Notre patrie, c'est le monde », c'est-à-dire... Et c'était l'idéal d'Antonio Gonzalves, qui a créé une coopérative de cordonniers, j'ai oublié de le dire. Il considérait que le nationalisme annonçait la guerre et qu'il fallait lutter contre le nationalisme, contre l'idée de patrie étroite, et qu'il fallait parier sur la solidarité entre les peuples. Et d'ailleurs, son idée de commune, c'était une idée concrète mais aussi théorique qui venait des idées de Bakounine. Il avait lu Bakounine, c'est extraordinaire quand même, pour quelqu'un comme Antonio Gonzalves qui avait fait 3 ans d'école primaire. Il avait lu tout Bakounine et il était, enthousiaste à l'idée de créer des coopératives, des communes, on dirait de l'économie sociale aujourd'hui, des communes libres, décentralisées, mais qui progressivement seraient appelées à se fédérer, à échanger, à coopérer, de région à région, de pays à pays, et formerait une espèce de chaîne de fraternité à l'échelle mondiale. Alors on peut dire que c'est complètement utopiste. Oui, mais soyons utopistes. Slogan de mai 68, c'était soyons réalistes, vive l'utopie. Mais aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on a besoin, d'une autre gouvernance mondiale, qui ne soit pas imposé par des multinationales sans foi, sans loi, qui détruisent les liens sociaux et la planète tout entière, mais à partir de collectifs de base qui construisent une société qui va non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, et en se tenant la main de peuple à peuple, alors qu'on assiste malheureusement à une montée des racismes, des tensions dans les quartiers, de guerres de tribus, de guerres de religion, etc. L'idéal d'Antonio Gonzalves, incarnant les anarchistes pacifistes de cette époque, était un idéal en même temps très concret, très social et en même temps universel. Et je trouve que ce lien local-global, il revêt aussi une formidable actualité aujourd'hui.
Et autre chose qui est bien mis en avant aussi dans cette expérience de la Commune des Lumières, c'est aussi l'importance, quand on met en place un projet comme ça, de s'intégrer réellement là où on est et de faire participer les gens et de pas aller dans un endroit où on n'a aucun lien. Et donc il y a plusieurs exemples que tu cites dans le livre qui ont été tentés plus dans le nord du Portugal, dans la région de Trás-os-Montes, qui ont foiré parce qu'ils n'étaient pas intégrés dans la population. Et l'autre élément, tu l'as dit à plusieurs reprises, qui est important, c'est la capacité aussi qu'ils ont eue à la Commune des Lumières, c'est de développer cette production qui leur a permis justement à la fois de faire œuvre public, enfin de salubrité publique, puisqu'ils ont commencé à avoir cet atelier, cette fabrication de chaussures, donc qui permettait aux paysans, à la population locale d'avoir des chaussures de qualité à bas prix. Et donc cette question justement de décider ce qu'on produit et comment on le produit et qui le produit, c'est la base aussi d'une expérience collective qui marche, on va dire. Et là, avec les cordonniers, ça marche.
Oui. Alors, pour la petite histoire, hein, mais la petite histoire, c'est aussi de la grande histoire. Antonio Gonçalves, son papa, était cordonnier dans un village de l'Alentejo. Le cordonnier, c'était un personnage qui n'était pas très riche, mais qui était un peu plus d'un statut un peu plus enviable que les paysans. Parce qu'il faisait des chaussures et donc il pouvait se chausser. Or, et c'est incroyable, moi-même j'ai ouvert les grands yeux en menant l'enquête, c'est une enquête quand même d'un an, parce que c'est pas facile de réunir des faits, des témoignages, etc. Mais je me suis rendu compte que jusque dans les années 50, voire 60, alors que moi j'étais enfant, j'avais le chauffage central à la maison, j'allais à l'école, voilà, mon papa avait une voiture, on allait en vacances en Italie. Eh bien, dans l'Alentejo, les enfants, sauf dans les villes un peu plus importantes, marchaient pieds nus. Parce que les familles, alors qu'on était dans les Golden 60s ici, n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter une paire de chaussures. Il n'y avait pas encore la production de masse, etc. Et donc, je trouve ça assez extraordinaire que la commune s'est bâtie, la commune des Lumières, autour de cordonniers qui se sont mis ensemble. Se mettant ensemble, ils ont pu faire des chaussures de qualité qui durent, mais qui surtout aient un prix beaucoup moindre et donc accessible pour les paysans et pour les enfants de paysans, pour qu'ils puissent avoir des chaussures et garder les vaches ou travailler dans les champs avec des chaussures. Et par le collectif, on diminue le prix, on rend accessibles les chaussures. Et alors là, si tu me permets, Zoé, je voudrais couper les ailes à un canard. Parce que parfois, au Portugal, il y a des articles, Antonio Gonçalves, la Commune des Lumières n'est pas très très connue, mais quand même un petit peu dans certains milieux. Mais on a toujours tendance à raconter les mêmes informations, à pas les croiser, à pas aller chercher plus loin. Et tout le monde dit, enfin tous ceux qui s'intéressent à la Commune des Lumières, « Ah, c'était un anarchiste tolstoïen ». Mais en fait, tout ça parce que Tolstoï était végétarien et que Gonçalves était végétarien. Mais toutes les grandes figures de l'anarchisme à l'époque, en commençant par Kropotkine en Russie et Élisée Reclus, dont on a cité le nom plusieurs fois, étaient également végétariens. Donc c'est assez ridicule. D'autant plus que les communes qu'a promues à l'époque Tolstoï en Russie étaient d'un modèle radicalement différent, à l'opposé des communes d'Antonio Gonçalves. Comme tu l'as dit très justement, la Commune des Lumières, elle était intégrée dans le village. Les gens du village allaient à la commune. Antonio Gonçalves participait à des réunions syndicales, composait des poèmes, chantait avec les gens, participait à la création du syndicat agricole dans le petit village du Valle de Santiago. Tandis que les communes promues par Tolstoï, c'était des espèces d'enclaves dans des clairières au milieu d'une forêt, où on travaillait avec la scie, sans vision vraiment sociale des choses, sans compter que Antonio Gonçalves était profondément athée, tout en respectant les gens qui croyaient en Dieu, et Tolstoï était en fait profondément chrétien, donc il y a des différences notoires. Mais tout le monde dit qu'il était tolstoïen. Moi, je ne pense pas. Je crois qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il a été fortement influencé par Élisée Reclus. J'ai oublié de dire que Élisée Reclus, il était le rédacteur en chef à l'époque, hein, fin du 19e siècle, d'une revue extraordinaire, La Géographie Universelle. Et comme correspondant au rédacteur en chef et comme géographe, il parcourait le monde. Il parlait une demi-douzaine de langues. Et il s'est inquiété de la détérioration de la planète, déjà au XIXe siècle, liée au phénomène du colonialisme. On abîmait la terre et les hommes avec le colonialisme. Et comme il visitait les pays, il en profitait, puisqu'il était de conviction anarchiste, pour rencontrer les anarchistes. Et au Portugal, c'est lui qui a donné l'impulsion, effectivement, en 1886. Mais donc, voilà, quand on parle d'anarchisme, de libertaire, d'anarcho-communisme, Antonio González se revendiquait de l'anarcho-communisme, évidemment, ça se traduit en différents courants. Il était fortement opposé, radicalement opposé à toute forme de violence, Antonio González, ce qui me semble aussi d'une actualité intéressante. Donc quand on dit aujourd'hui anarchisme, on pense au Black Bloc dans les manifestations à Paris, etc., casqués, avec des bâtons, etc. C'était pas du tout la philosophie pour lui. L'anarchisme, c'était partir du bas vers le haut. C'est émanciper les gens, c'est faire en sorte que les personnes, les travailleurs, deviennent leurs propres maîtres.
Mais c'était justement aussi en lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que le peuple portugais et le mouvement social anarchiste portugais étaient bien conscients du fait que cette guerre 14-18 et toutes les autres guerres, c'était une collusion entre les États, les capitalistes et les grands propriétaires. Et donc que c'était contre ça qu'il fallait lutter, entre guillemets, et pas les uns contre les autres. Et donc, cette remise en cause de l'État comme du grand capital, on va dire, ben c'est clé dans la pensée anarchiste aussi, en tout cas.
Tout à fait, c'est l'universalisme, et je trouve que c'est une idée qui a une grande modernité aujourd'hui, parce que le monde, il est à feu et à sang aujourd'hui. Il y a les religions, mais les marchés économiques, financiers ont remplacé les religions pour nous imposer des modèles qu'on doit accepter sans broncher parce que, soi-disant, il n'y en a pas d'autres. Chez Antonio González, à la Commune des Lumières, et dans l'idée de commune libertaire, c'est toujours l'idée de mettre en pratique la théorie. Alors, comme on parle de guerre 14-18 impopulaire au Portugal, dans le peuple, il y a eu en 1917-1918 des désertions en masse de jeunes qui ne voulaient pas faire leur service militaire. Et la commune des Lumières a caché, on ne connaît pas exactement le nombre, on parle de 80 déserteurs dans les cabanes de la commune pour échapper au service militaire. Voilà.
J'ai perdu le fil de ma question. Justement, en 1918, donc c'est l'année charnière aussi pour aussi bien pour la Commune des Lumières qu'au niveau portugais dans sa globalité. Il y a cette effervescence aussi du mouvement syndical des travailleurs qui veulent justement remettre en cause. Le gouvernement aussi et les mesures prises par les gouvernements, mais aussi la hausse du prix notamment de la farine et donc du pain, le fait qu'il y a une production qui, au lieu d'être consommée sur place et mise à disposition de la population, est exportée. Et donc, il y a une grève générale qui s'organise et donc que tu retraces un peu aussi, notamment à partir de... Du point de vue de ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait. Il y a aussi un événement mondial qui a une répercussion forte au Portugal et surtout en Alentejo, parce que c'est la révolution russe. En 1917, c'est la révolution d'octobre, la promesse de Lénine d'exproprier les féodaux, de rendre la terre aux paysans. Et ce slogan de rendre la terre aux paysans trouve un écho très fort chez les paysans de l'Alentejo qui n'ont rien, quoi. Ils n'ont que leurs mains, ils n'ont qu'à perdre que leur chaîne. Et donc, effectivement, pour le 18 novembre 1918, est programmée et préparée pendant des mois une grève générale avec deux courants parmi les syndicalistes, dont un courant majoritaire en Alentejo. C'est soit une grève un peu plus réformiste pour des améliorations de la vie, etc., ou soit plus loin, une grève insurrectionnelle et révolutionnaire qui, dans la Alentejo, aboutirait à l'expropriation avec tout le romantisme, l'idéalisme, la sous-estimation aussi des forces qui tenaient le pouvoir pour rendre la terre aux paysans. Et quand la grève générale se déclenche, la commune des Lumières, qui est située dans un petit village qui s'appelle le Valle de Santiago, ne sait pas comment elle se développe dans les autres villages. Pourquoi ? C'est la petite histoire qui rejoint à la grande ou inversement. Cette grève ne sera pas un grand succès. Mais les paysans la font dans la Alentejo, mais alors les seuls travailleurs qui la font vraiment, ce sont les cheminots. Or, le chemin de fer était la voie de communication pour colporter les nouvelles sur comment ça se passe ailleurs, est-ce que la grève est un succès ou un échec. Et comme les trains sont arrêtés, que l'armée occupe les gares, les travailleurs du Valle de Santiago, appuyés par la commune des Lumières, qui avaient pris les armes, qui avaient l'intention d'exproprier les grands propriétaires terriens qui les exploitaient, ne sait pas si la mayonnaise prend dans les autres coins. Et sans nouvelles, ils se disent « qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on y va ». Et ils ont commencé à occuper les terres, à voler de la farine dans des greniers à blé, ou pour des raisons de spéculation complètement égoïstes. C'est comme des collaborateurs pendant la guerre, quoi. Des inciviques, les grands propriétaires, pour faire des profits, ne vendaient pas la farine au prix du marché dans les villages. Et pendant 4 jours, les travailleurs vont tenir le village. Ils vont faire une espèce de soviet général sur le modèle anarcho-communiste de la Russie. Et puis, malheureusement, les histoires d'amour finissent mal en général. La troupe va débarquer, ça va être un carnage. Et dans la répression impitoyable des forces du pouvoir, parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer, ils avaient une frousse bleue, le pouvoir dominant, les multinationales, les grands propriétaires, les grands bourgeois du Portugal, avaient une frousse bleue qui est une contagion de la révolution d'octobre au Portugal. Donc ils ont vraiment mené une répression impitoyable. Et dans la foulée de cette répression, la commune des Lumières va être mise à sac. Son animateur principal, Antonio Gonzalves, va être emprisonné. Et des membres de la commune, des villageois, vont être déportés sans aucun jugement, en bateau, jusqu'en Angola, où ils vont travailler faire du travail forcé dans des bagnes. J'ai eu le privilège, parce que j'utilise les méthodes pour obtenir l'information du journaliste et aussi de l'historien amateur que je suis. Je croise un peu, j'attaque le sujet de tous les côtés. Je suis allé au village de Santiago pour respirer, pour voir par quelle ruelle les paysans en armes étaient passés, pour voir l'église dont les cloches à 4 heures du matin ont appelé les paysans à se rassembler, à se soulever. Donc, c'est les cloches de l'église. C'est un poète populaire, Francisco Mestre, local, qui était aussi sonneur de cloches, qui était anarchiste lui-même et qui a utilisé l'église pour rassembler les gens. Et j'ai perdu le fil. Donc oui, j'étais au village. Je me suis présenté à la petite mairie du village. J'ai dit voilà, je fais une enquête sur la commune des Lumières. Ils n'ont plus d'archives. Et alors la secrétaire de mairie m'a dit « Ah, mais je connais une vieille dame là. » Elle pourrait vous raconter des histoires. Et alors avec la gentillesse de ces gens, parce que ce sont des gens extrêmement gentils, fraternels, on est allé chercher quelqu'un est allé chercher la dame. Je me dis mais non, elle va jamais arriver. Une demi-heure plus tard, elle est arrivée. On s'est installé dans une petite pièce de la mairie de village, et elle a raconté l'histoire. En fait, cette dame, Deolinda, était la petite fille d'un des travailleurs ruraux qui fréquentait la commune des Lumières et qui a été emprisonné suite à la répression de 1918 et envoyé au bagne en Angola. Et son grand-père est mort parce que sur le voyage de retour, sur le paquebot, il est mort, sans doute de maladie. Elle pense que comme il voulait se venger, etc., il a été empoisonné. Bon, ça reste à prouver. Mais voilà, c'est assez compliqué de sortir des sentiers battus d'une histoire avec plein de clichés ou plein de lacunes de trous quand il n'y a plus de témoins et donc il faut un peu attaquer les choses par tous les bouts. Voilà, c'est peut-être la modeste plus-value que j'ai pu apporter dans cette histoire et dont j'espère qu'elle va être lue par les jeunes générations. Moi j'ai maintenant un peu plus de 60 ans. J'avais 20 ans au moment de la révolution d'avril au Portugal. Ben maintenant, c'est un peu à tout et chacun et aux plus jeunes à inventer leur chemin et à prendre le meilleur des expériences passées et de réinventer d'autres chemins aussi.
Oui, et c'est intéressant aussi parce que du Portugal, ben c'est une histoire qui est un peu comme c'est un pays excentré. On connaît beaucoup moins l'histoire. On connaît la figure de Salazar. On connaît moins la figure qui est au centre aussi de justement cette répression, qui est Sidonio Pais, qui était pas sanguinaire, on va dire, mais qui était un petit dictateur en puissance et donc qui était au pouvoir donc à cette époque-là et qui a été assassiné. J'ignorais totalement toute cette période.
Mais bon, aussi avant donc.
Et du coup, c'est ça qui est intéressant justement. Enfin, pour qui s'intéresse au Portugal, en tout cas, c'est un vrai bonheur que de lire ça. Et justement, ce que je trouve intéressant dans tes livres aussi, de manière plus générale, c'est que tu racontes l'histoire comme une histoire, et donc comme qu'on est dans un roman, quoi. Enfin.
Oui, un roman, non pas parce que je fictionnerais. Parce que j'inventerais les choses, mais un roman dans mon souci, bon, je ne sais pas faire grand-chose d'autre, hein, donc mon souci d'essayer d'expliquer les choses d'une manière concrète, vivante, sans enfermer les lecteurs, et de faire en sorte que ça puisse être lu, parce que ce ne sont pas des thèses universitaires, sèches, Et je pense aussi, parfois, on me dit « Ah, mais c'est un roman, ou tiens, t'as inventé ». Non, je n'invente rien. Mais par contre, je me mets dans la peau des personnages et je me mets en scène un peu à la manière d'un film. Et alors je me dis « Mais au fond, c'est quoi un roman ?» En fait, je n'en sais rien. C'est quoi la différence entre un récit et un roman ? Je pense qu'il est important, c'est d'avoir de la véracité. Et je me dis, moi j'aime beaucoup, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne peins pas, mais j'adore la peinture. Mais je me dis souvent que dans un tableau de Chagall, par exemple, y a plus à dire de la réalité que sur une simple photo. Et que donc, voilà, forcément, quand on écrit, on y met un peu de sa sensibilité. C'est clair que si je me suis passionné pour ces histoires d'Antonio Gonzalez, d'anarchie pacifiste libertaire, bah, c'est parce que ce sont des idées qui me sont relativement sympathiques. Et à travers l'écriture, j'apprends aussi beaucoup de choses, parce que, à la vérité, et très humblement, je dois dire que je connaissais pratiquement pas Élisée Reclus. Je ne connaissais pas Malatesta, qui est une très grande figure de l'anarchie en Italie. Et que bon, voilà, on apprend en marchant, quoi. Et donc, à chaque livre, j'apprends. Et alors, peut-être une petite chose que je voudrais dire, c'est que cette expérience de l'Alentejo, elle a imprimé la mémoire collective au Portugal. Parce qu'on a commencé l'émission en écoutant Zeca Afonso, qui, avec sa chanson « Grande de la Villa Morena », a servi de déclencheur à la révolution des œillets, qui a défait la dictature de 48 ans. Eh bien, en Alentejo, à partir de 1974-75, c'est-à-dire juste dans la foulée de la révolution, qu'ont fait les paysans ? Mais ils ont exproprié les latifundistes qui étaient toujours là à l'œuvre et qui les exploitaient comme au Moyen-Âge. Et ils ont créé des coopératives. Sur le modèle, quelque part, sans faire du copier-coller, mais sur le modèle de la Commune des Lumières. Et donc, 50 ans après, une cinquantaine d'années après, cette expérience d'Antonio Gonzalez a imprimé les consciences. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi. Bon, malheureusement, les coopératives de la période révolutionnaire portugaise n'ont pas trop duré pour des raisons c'est pas facile les coopératives, hein, parce que si on est payé la même chose et qu'il y en a un qui travaille trois fois plus que l'autre, c'est pas toujours. Et alors, ça me tient à cœur aussi de parler de la richesse de l'Alentejo, parce que au Portugal, il y a toujours, c'est comme les Français qui racontent des histoires belges ou les Français qui se moquent des Corses, etc. Beaucoup de Portugais se moquent des gens de l'Alentejo parce qu'ils seraient lents, fatigués, ils aiment faire la sieste, boire du vin, etc. Mais pour moi, l'Alentejo, comme je le connais, c'est une terre de créativité et d'innovation sociale. Et donc, en montrant comment l'Alentejo a été, il y a un siècle, un laboratoire politique humain, c'est aussi réhabiliter un petit peu l'Alentejo aux yeux du monde. C'est une région quand même particulière aujourd'hui. Hein.
Ah bon, oui, oui, mais même quand on regarde la carte, moi je me rappelle donc mon enfance au Portugal et donc ma scolarité au Portugal, il y a cette carte du Portugal avec les régions et donc l'Alentejo, c'est ce gros truc là qui avec une ou deux villes qui est semi-désertique avec des températures aussi, tu évoquais la chaleur pour le travail des paysans, mais c'est où il fait 40 degrés déjà il y a 40 ans.
C'était... Ouais, mais le réchauffement climatique n'est pas nouveau là-bas.
Et donc effectivement, même encore aujourd'hui, c'est une région qui est un peu mystérieuse aussi.
On n'a pas le temps, mais dont la richesse puise ses racines au plus profond de l'histoire. C'est une région qui a été fortement imprégnée par la culture musulmane, parce que quand le Portugal a été occupé à partir du 8e siècle par les Maures, la présence maure était et plus intense en Alentejo et beaucoup plus longue, parce que la reconquête catholique a mis 4 siècles de plus pour atteindre l'Alentejo. Et la période musulmane a aussi été une période, parce qu'on voit toujours l'islam ou les musulmans comme un ennemi, on confond intégrisme et religion, mais en fait, pour l'Alentejo, pour le Portugal, c'était un peu une période des Lumières, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'inquisition. On pouvait aller à la synagogue, on pouvait aller à l'église, on pouvait aller dans une mosquée sans qu'il y ait de gros problèmes. Et cet esprit de tolérance est resté là-bas. Je disais que c'est une terre de poètes. Alors pourquoi ? Je me suis dit, pourquoi il y a autant de poètes populaires ? Il n'y a pas une fête dans l'Alentejo, un bal, une fête de village qui ne commence par un récital de poèmes, par un poète qui parfois ne sait même pas lire et écrire et compose ses poèmes par cœur, quoi. Et voilà, il y a quelque chose de particulier à l'heure de la mondialisation, des hamburgers partout, de l'uniformisation, il y a une particularité de l'Alentejo, mais qui est fragile. Parce qu'aujourd'hui, malgré les progrès réalisés par le nouveau gouvernement socialiste au Portugal, il y a quand même beaucoup de complaisance par rapport aux multinationales. Et cette terre agricole qui fonctionne avec des tomates, avec des oliviers, avec des chênes verts, etc., est maintenant confisquée par des multinationales, les nouveaux vampiros de la chanson, qui non seulement qui maltraitent les hommes, à nouveau, mais qui maltraite, et c'est encore plus grave peut-être, la terre. C'est-à-dire que ces multinationales reproduisent le modèle dominant, c'est-à-dire d'une agriculture qui détruit l'environnement. Ils pompent l'eau alors qu'il y a un problème d'eau, ils assèchent les sources, et pire, ils polluent les rivières, les fleuves. Et donc, l'Alentejo est maintenant dans une période de mutation où on sent que les choses peuvent basculer d'un côté à l'autre, mais il y a encore beaucoup d'espoir, et voilà, c'est ça qui est intéressant, et puis tant que c'est chanté, c'est pas foutu, quoi.
Oui. Bien, merci beaucoup Jean d'être venu nous parler si passionnément de ce beau Portugal qu'on aime tous les deux. Juste peut-être pour terminer, un petit mot sur la maison d'édition.
Ah oui, c'est une, c'est une maison d'édition dans laquelle je me sens très bien, parce que c'est Otium, à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue rouge de Paris. C'est une maison d'édition couplée à une librairie qui s'appelle Envie de lire, un beau titre pour une librairie. Et c'est une coopérative ouvrière, cette librairie. C'est même la seule librairie qui a le statut de coopérative ouvrière. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans cette collaboration avec Otium, c'est que l'éditeur est extrêmement soigneux dans la qualité du produit. Il n'y a rien de luxueux, mais la couverture, franchement, je la trouve d'une beauté. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est beau. L'éditeur fait appel à des artistes, artisans. Il utilise une typographie très soignée, un papier écologique, une mise en page claire, agréable. Des illustrations originales qu'il paye parce que c'est pas du copier-coller d'internet, il achète les droits sur... Donc il y a dans le fonctionnement de la maison d'édition et de la librairie, il y a aussi cette idée de mettre des idées générales en pratique, quoi, dans la façon. Donc quelque part c'est super agréable de travailler en se sentant considéré comme un camarade, quoi.
Eh bien, donc on conseille La Commune des Lumières, Portugal 1918, une utopie libertaire aux éditions Otium, dans la collection Les Taupes.
Creuse des tunnels. C'est disponible en librairie. Hein,
voilà, comme tu disais, c'est un bel ouvrage, avec y compris quelques photos en fin d'ouvrage. Jean, merci beaucoup. À tout bientôt.
Merci pour ta patience à m'inviter généreusement sur les ondes de Radio Panique. Et j'aime aussi l'idée qu'il y ait des radios libres et qu'il y ait cette information alternative aussi qu'on ne peut pas se permettre dans des organes de communication plus commerciaux. Voilà.
Qu'on puisse prendre le temps de dérouler un peu une pensée.